VOA Afrique, les infos. À Washington.
Georges Billon, il est 11h à Dakar. Bonjour à tous. Avant même la proclamation des résultats provisoires attendus cette semaine sur la présidentielle de ce 24 février, le premier ministre Mamadou Boune Abdallah a annoncé la victoire au premier tour du président sortant Macky Sall. Il dit s'appuyer sur les résultats provisoires déjà collectés, des résultats qui, selon lui, donne Macky Sall vainqueur dans 13 des 14 régions du Sénégal. Cependant, Idrissa Seck et Ousmane Sonko, deux principaux rivaux de Macky Sall, disent qu'aucun candidat ne peut se proclamer vainqueur de l'élection dans l'état actuel du dépouillement des suffrages exprimés. La correspondance de Seydina Abagaye à Dakar.
Tout a commencé avec la déclaration du Premier ministre Mohamed Boune Abdallah John donnant la victoire au président sortant Macky Sall.
Les résultats compilés nous disent aujourd'hui qu'il nous faut féliciter le président Macky Sall pour sa réélection au premier tour. Aujourd'hui, nous pouvons nous attendre à un minimum de 57% pour le candidat, le président Macky Sall.
Pour l'opposition, il est impossible que le président sortant recueille autant de suffrages. C'est ce qu'affirme Abdourahmane Diouf, porte-parole du candidat Idrissa Seck.
Les résultats que nous avons cumulés de tous les candidats de l'opposition donnent, dans une hypothèse haute, 44% au candidat Macky Sall, 39% dans une hypothèse basse.
En attendant les résultats provisoires de la Commission électorale nationale autonome Sénat, la majorité présidentielle se dit victorieuse dès le premier tour, alors que l'opposition, elle, soutient qu'il y aura forcément un second tour. À Dakar, Seydina Abagaye pour VOA Afrique.
Au moins 39 personnes ont été tuées dans des violences liées aux élections présidentielles et parlementaires de samedi au Nigeria, a annoncé aujourd'hui un groupement de la société civile qui assure la surveillance du scrutin. Cela dit, le décompte des voix se poursuit après la présidentielle de samedi qui s'est déroulée globalement dans le calme. Les deux favoris, le président sortant Muhammadu Buhari et l'opposant Atiku Abubakar, revendiquent la victoire, mais aucun résultat officiel n'a été annoncé. Retour sur cette journée électorale au Nigeria avec Gilbert Tamba depuis Abuja.
Dans le quartier de Douste Aladji, à la banlieue d'Abuja, la capitale fédérale, Christian Mwachuku, 51 ans, est arrivé au bureau de vote depuis 7h45 pour pouvoir voter à 8h, l'heure fixée par la CENI pour l'ouverture des bureaux de vote. Après avoir attendu pendant plus de 3 heures, il s'est dit déçu du retard observé pour le début des opérations de vote.
Je suis là depuis 7h45 pour voter, mais jusqu'ici je n'ai pas voté. On nous dit que les agents électoraux de la CENI ne sont pas encore prêts pour nous recevoir. Je ne sais pas quoi faire. Je suis vraiment déçu de rester ici tout ce temps et au moment même où je vous parle, j'ai faim. Donc il faut que j'aille manger.
Des dysfonctionnements ont toutefois été signalés par endroits, comme le retard de l'ouverture de certains bureaux de vote, l'absence de bulletins pour les législatives dans d'autres centres et des difficultés chez les électeurs de localiser leurs bureaux de vote. C'est le cas de Finis Amana.
Je ne sais pas comment je me sens parce que nous sommes là depuis 5h30 ce matin. Je cherche où se trouve mon bureau. Il faut que je trouve mon bureau car je veux voter. Je vais chercher quelqu'un qui pourra m'aider, mais je dois voter aujourd'hui. C'est pour cela que je suis venu.
Dans ces bureaux, plus de 6000 électeurs sont inscrits. Au total, plus de 72,8 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes dans plus de 120 000 bureaux de vote pour le premier tour des élections présidentielles et législatives. Kaliou Idiki vient de voter dans le bureau de vote de Maïtama, un quartier chic au centre-ville d'Abuja.
Honnêtement, ce n'est pas si difficile si vous êtes patient. Parce que toute personne qui cherche quelque chose de valeur doit être patiente. J'ai été patiente et j'ai voté. Oui, il y a quelques désordres, mais en tout cas, moi, j'ai voté dans la paix.
Électeurs, observateurs et agents électoraux sont unanimes sur un point. La journée du 23 février s'est plutôt bien déroulée dans la majorité des États du pays et à Abuja, la capitale fédérale. Quelques incidents ont été signalés dans les États de Lagos, la capitale économique, de l'État de Rivers, dans le sud pétrolier et dans d'autres localités du pays. Selon les organisations de la société civile, plus d'une dizaine de personnes auraient perdu la vie. Pour la Commission électorale nationale indépendante, ces incidents ne sont pas de nature à entraver le processus électoral en cours. Aliou Bello est le porte-parole de la CENI.
La journée d'hier s'est bien passée. Il est vrai qu'il y a eu des incidents isolés, comme le retard dans l'ouverture des bureaux, mais cela n'affecte pas le processus en général. Tout s'est bien déroulé, tout s'est déroulé de façon paisible.
Le dépouillement se poursuit encore et la compilation des résultats a déjà commencé. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
Halima Hamdi, dirigeante de la branche féminine du principal parti d'opposition en Tanzanie, le Chadema, a été libérée sous caution après avoir été arrêtée samedi pour propos séditieux, a annoncé aujourd'hui son parti. Députée et avocate de 40 ans, Halima Hamdi a été libérée tard dimanche soir après une nuit en garde à vue et sera de nouveau convoquée par la police dans la semaine, a précisé le secrétaire général du Chadema, Vincent Machinji. Elle avait été arrêtée samedi à Dar es Salaam, la capitale économique de la Tanzanie, après avoir rencontré des électeurs devant lesquels elle avait dénoncé la politique du président tanzanien John Magufuli. La Cour internationale de justice, la CIJ, donne aujourd'hui son avis dans un différend sur les îles Chagos, un archipel britannique de l'océan Indien qui accueille une importante base militaire américaine et dont la souveraineté est revendiquée par l'île Maurice. Les juges de l'organe judiciaire principal de l'ONU vont rendre un avis consultatif non contraignant cet après-midi au siège de la Cour à La Haye. Les Chagos se trouvent au cœur d'un litige vieux de 5 décennies depuis la décision britannique de séparer de l'île Maurice cet archipel en 1965 et d'y installer une base militaire commune avec les États-Unis sur l'île principale de Diego Garcia.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Jean-Roger Billon à ce micro. Bonjour. Nous continuons ce journal. Donald Trump a déclaré dimanche qu'il allait reporter le relèvement initialement prévu vendredi prochain des droits de douane sur les produits chinois importés aux États-Unis en raison de progrès substantiels effectués par Washington et Pékin dans leurs négociations commerciales. Cette annonce est le signe le plus marquant d'une avancée majeure dans les négociations entre Washington et Pékin depuis la trêve commerciale de 90 jours convenue par Donald Trump et Xi Jinping en marge du sommet du G20 début décembre dernier en Argentine. Et rencontre cette semaine entre le président américain et son homologue nord-coréen Kim Jong-un est déjà en route. Lionel Gaïma.
Kim Jong-un est accompagné dans son long périple ferroviaire de son bras droit, le général Kim Jong-chol, qui a rencontré Donald Trump le mois dernier à la Maison-Blanche, ainsi que sa sœur et conseillère Kim Yong-jong et d'autres proches collaborateurs, selon l'agence nord-coréenne de presse KCNA. Dans un commentaire incisif dimanche, KCNA a appelé Washington à saisir une occasion historique rare, réagissant au scepticisme exprimé dans les médias et au Congrès aux États-Unis sous l'absence de progrès depuis Singapour et les intentions réelles de Pyongyang de se débarrasser de son arsenal nucléaire. Selon Jiyoung-Yu Tai de l'Institut d'études nord-coréennes à Séoul, prendre le train au lieu de l'avion chinois qu'il avait transporté à Singapour permet cette fois aux dirigeants nord-coréens de marquer son indépendance à l'endroit de Pékin. Plusieurs sources vietnamiennes ont indiqué en privé que Kim Jong-un arriverait au Vietnam par le train jusqu'à la gare de Dong Dang, frontalière de la Chine, avant de gagner Hanoï par la route à 170 km de distance. Cette route sera fermée mardi, ont annoncé les autorités vietnamiennes, et des militaires sont déployés le long du parcours depuis samedi.
Le vice-président des États-Unis, Mike Pence, va annoncer des mesures concrètes et des actes clairs pour résoudre la crise au Venezuela lors d'une réunion du groupe de Lima prévue aujourd'hui à Bogota, la capitale de la Colombie, a déclaré dimanche un haut représentant de l'administration américaine. Mike Pence doit s'entretenir avec le chef de file de l'opposition vénézuélienne, Juan Guaido, reconnu par les États-Unis et de nombreux pays occidentaux comme le président légitime du Venezuela. Cette rencontre intervient après que les forces de sécurité et des miliciens fidèles au président en exercice, Nicolas Maduro, ont violemment repoussé samedi les convois d'aide qui tentaient de franchir les frontières avec la Colombie et le Brésil à l'initiative de l'opposition. Et puis, le metteur en scène mexicain Alfonso Cuarón a été sacré dimanche meilleur réalisateur pour son film Roma, succédant à un autre réalisateur mexicain, Guillermo del Toro, qui avait remporté cet Oscar l'an dernier avec La Forme de l'eau. C'était donc le troisième Oscar de la soirée pour Alfonso Cuarón, qui avait déjà reçu la statuette du meilleur réalisateur pour Gravity en 2014, ainsi que celle du meilleur montage. Jean-Roger Billon à ce micro. Prochaines infos dans 50 minutes. Vous retrouverez Henri Francisque. Pour ma part, je vous dis bon après-midi.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.